trois de vos œuvres sont au programme du concert de mercredi. Les trois œuvres ont été composées entre 1988 et 1996. Donc, commençons en ordre chronologique avec Possible Nudity, qui a été composée en 1988. C'est une réorchestration pour trio à cordes que nous entendrons, une réorchestration d'une œuvre pour ensemble.
Possible Nudity, c'était une œuvre qui était écrite pour un ensemble que j'avais formé à New York qui s'appelait Abandon Ensemble. L'ensemble était formé de flûte, trompette, alto, contrebasse et harpe. Possible Nudity, c'était sans trompette, mais avec flûte, percussion. Ah oui, j'ai oublié, il y avait la percussion aussi dans l'ensemble. Et puis voilà, donc c'était un des premiers concerts pour lesquels j'avais écrit. Puis oui, en fait, ça me fait drôle de réentendre cette œuvre-là parce que je ne l'avais pas écoutée depuis une vingtaine d'années, facilement. Et puis je me rends compte à quel point c'était une œuvre c'est une mélodie de timbre, finalement. C'est une mélodie de timbre. J'ai hâte d'entendre cette orchestration-là qu'on joue cette semaine parce que je ne l'ai pas encore entendue live.
Et ensuite, Lungta, composé en 1992, qui signifie chevaux de vent en tibétain, je crois.
Oui.
Et je crois que c'est à propos pour parler du dynamisme qui caractérise beaucoup de vos œuvres, le mouvement incessant, la transformation du matériau qui est continuel et les contrastes. Est-ce que de quelle façon ça se retrouve dans cette pièce-là?
Ben, Lungta, c'est inspiré par l'image des prayer flags, donc les drapeaux de prière que les Tibétains attachent aux cimes des arbres ou aux cimes des montagnes. Et les prières, dans la philosophie tibétaine, dans la religion tibétaine, c'est que les prières sont transportées dans l'invisible pour ceux qui sont partis et aussi pour ceux qui envoient le message. Le caractère de l'œuvre est inspiré définitivement par un folklore tibétain, mais il n'y a absolument aucune musique, aucune note finalement, et aucune mélodie qui a été prise directement. C'était plus exactement ce dont tu parles, l'énergie, l'espèce de dynamisme. Et puis le caractère des mélodies, par exemple quand les femmes chantent avec leur voix très très aiguë, donc c'est comme ça que l'œuvre commence avec les violons dans l'aigu, une mélodie mélismatique qui représente la voix des chanteuses femmes, et puis souvent le violoncelle est utilisé comme les drones des moines tibétains. Alors il y a tous ces éléments-là qui font la pièce, mais il n'y a rien qui est vraiment copié là, du...
Alors, tout est transposé. Je crois que
C'est vraiment
c'est du
plus comme...
Linda Bouchard,
Mais
mais
c'est
c'est une source
inspiré dans le sens que
d'inspiration,
moi,
là.
ça m'a touché. Puis comment est-ce que je peux faire quelque chose avec ça, finalement?
Et dernière œuvre dont nous allons parler, Trace, composée en 1996, qui cette fois, je crois, évoque bien votre approche formelle, où on retrouve plusieurs énoncés musicaux, comme vous en avez parlé, qui sont chacun une réflexion, une répercussion d'une image fondamentale, mais qui n'est jamais clairement exprimée. Donc c'est une sorte de structure formelle. Pas en arborescence, mais peut-être en mosaïque.
Oui, je pense que l'image de la mosaïque, c'est une bonne image, dans le sens que j'écris pas une musique faite en développement. J'écris une musique faite en collage et en ayant des idées très spécifiques qui peuvent être. C'est finalement un collage de variations de certaines idées, mais c'est pas l'idée d'un développement. J'ai jamais travailler cet aspect-là de la musique. Et je pense que ça vient vraiment de mes années de New York où j'allais beaucoup au musée, puis c'était le Rauschenberg. Alors, il y avait tout l'art plastique. Puis je me souviens même à l'université à l'époque de me dire la plus grande révélation du 20e siècle, c'est le collage. Et puis, en effet, c'est ce qui transporte beaucoup de musique aujourd'hui. Alors, c'est une façon dont je travaille, en effet, qui n'est pas un développement, qui n'est pas une ligne droite, où on part d'un endroit où on se rend ailleurs, malgré que j'ai toujours... Je fais jamais un... Je fais une structure très serrée de mon œuvre jusqu'à la... sauf pour la toute fin. Parce que quand j'écris... Bon, au départ, il y a l'idée des esquisses. Ensuite, il y a toute l'idée de la structure, comment tout organiser ça. Puis au moment de l'écriture, il y a quelque chose qui se passe, ou j'espère qu'il y a quelque chose qui se passe pour qu'il y ait une espèce de révélation et qu'à la toute fin, il y a quelque chose qui se révèle de ce qui s'est passé, donc le 4/5 de l'œuvre ou le 2/3 de l'œuvre. Alors, c'est toujours mon espèce de défi. Puis quand j'arrive à ce place-là, là, je pourrais écrire un autre 20 minutes. Mais naturellement, il me reste. Être mentor, c'est une belle aventure pour moi parce que j'ai pas beaucoup d'expérience d'enseignement, parce que j'ai surtout créé, dirigé et orchestré, et aussi j'ai produit. J'ai fait quelquefois des masterclass en composition, j'ai des élèves privés, mais au point de vue de travailler comme ça dans un contexte avec des instrumentistes, et je pense aussi ce que Bozzini fait, c'est quand même unique comme travail.
Jusqu'à quel point votre participation comme mentor peut devenir une expérience introspective qui vous pousse à réfléchir à votre propre cheminement, votre propre perception de la musique?
Mais moi, je suis convaincue qu'en tant que mentor, qu'en tant que professeur, si on est perméable à ce qui se passe vraiment avec l'élève, avec le plus jeune, il y a quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de soi. C'est comme ça qu'il y a vraiment une synergie, qu'il y a vraiment un échange. Je pense que c'est définitivement pas à sens unique. Et j'ai hâte à mon expérience la semaine prochaine. Ça a été calme, finalement, on n'entendait pas les musiciens.
Non, je pense que ça va être bon.